France Info. France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés également sur le canal 27 de la TNT. Aujourd'hui, il n'y a pas de match de foot en Russie, hein. Intéressons-nous donc aux conséquences de la plus grande compétition de ballon rond au monde. Ainsi, sur Twitter, un Britannique s'est vanté d'avoir réuni 32 bouteilles de bière provenant des 32 équipes qualifiées pour la compétition. Bon, alors c'est passionnant, hein. Seul souci, s'il a bu les 32 bières dans une même soirée, cet homme n'a pas dû voir un seul match, donc de la Coupe du Monde. On marque l'histoire, en tout cas, comme on peut, bravo à lui. Et eux, ils biberont l'actualité. Ce soir, les informés de France Info reçoivent l'avocat Emmanuel Pierrat, bonsoir.
Bonsoir.
Également Eric Métou, bonsoir. De bonsoir. L'Express, Jacques Zab, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Parlement des étudiants et le communicant Jean-Christophe Gallien, bonsoir. Bonsoir. Et ce soir, nous parlerons des ONG hors la loi, d'Emmanuel Macron, de la com jusqu'à la garde, également de Nantes qui s'enflamme. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors, il y a un instant, on parlait des enjeux de cette Coupe du Monde et parmi ceux-ci, il y a cette question. Est-il de bon ton de s'attaquer à la pauvreté alors que joue l'équipe de France de foot? Non, franchement, c'est vrai que c'est un peu pénible. Ces gens sans argent alors que la France va peut-être gagner la Coupe du Monde. Il y a des priorités tout de même. Si vous n'êtes pas au courant, les Bleus jouent vendredi contre l'Uruguay pour une place en demi-finale. Voilà, vous suivez. Si nous remportons ce match, nous jouerons donc mardi prochain à 20h. Souci pour le gouvernement, c'est justement ce jour que le plan anti-pauvreté devait être présenté. Inquiet par le traitement médiatique autour du match, le gouvernement a décidé finalement d'exposer ce plan en septembre, de peur de faire flop. Alors, nouvelle aide pour les gardes d'enfants, petit déjeuner gratuit pour les enfants issus des familles défavorisées, dispositif zéro chômeur étendu, le virage social du président de la République est attendu, mais il faudra encore patienter. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn.
Ça dépend peut-être aussi des matchs de l'équipe de France, parce qu'il faut aussi de la disponibilité. Et donc, normalement, ce plan devrait être présenté autour du 10 juillet. Mais nous verrons si l'équipe de France est en demi-finale ou pas.
Voilà, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, ce matin sur LCI. Emmanuel Pierrat, pour que ce soit plus audible, finalement, ça se comprend, le report?
Ah non, ça se comprend pas, c'est effondrant. C'est effondrant. Ce qui est effondrant, c'est la politique menée depuis un an. On ne peut pas dire qu'elle fasse véritablement la part belle à la pauvreté et au traitement de la misère sociale. Mais là, en plus, prendre prétexte de la Coupe du Monde de football pour dire qu'on reporte à septembre, voilà, c'est méprisant, humiliant, grotesque, je sais pas, c'est inqualifiable. Voilà, j'ai déjà pas beaucoup de sympathie pour Agnès Buzyn, mais en plus, elle dit ça en riant et avec le sourire, comme si c'était un sujet léger et qu'on pouvait comme ça botter en touche. Voilà, c'est consternant.
Éric Métou, pour vous, c'est quoi? Il faut s'adapter à l'actualité, même quand on est au gouvernement et qu'on propose, qu'on attend un plan comme ça aussi important?
Bah, c'est un chouette signal quand même qu'ils ont envoyé là. Ouais. Effectivement, ça, entre les milliardaires qui courent sur tapis vert et les pauvres qui attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés, c'est le gouvernement à choisir. Enfin, c'est comme ça en tout cas que ça va passer. Enfin, oui, c'est consternant, mais c'est incompréhensible surtout. Enfin, il y a encore un problème de communication. Ça reste quand même. C'est un mystère. C'est-à-dire que ça fait un an que le roi de la com, parce qu'il s'est quand même partie élire là-dessus, communique de travers pratiquement à chaque fois. Alors on va parler du Nigeria, tout à l'heure, où là, pour le coup, c'est plus intéressant. Sûr, ouais. Mais là, enfin, je comprends même pas que je sais pas à quoi servent ces communicants, parce je crois qu'il les paye assez cher.
Jean-Christophe Gallien, est-ce que finalement Emmanuel Macron qui sera, alors si jamais la France se qualifie mardi en Russie, puisqu'il l'a dit après les quarts de finale, j'accompagnerai les Bleus vers leur victoire peut-être. Mais là, il y a quand même un plan très symbolique, parce que on pouvait penser au virage social, celui qui est attendu, même si le gouvernement s'en défend. Et là, de dire, bah non, je vais voir un match de foot, est-ce que c'est audible?
Bah, c'est pas audible, mais en même temps, il y aura la magie de la Coupe du Monde, la magie du football. Alors, est-ce que c'est une magie blanche, une magie noire, en l'occurrence? C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop et quels seront les effets sur Emmanuel Macron, mais c'est vrai que ça va effacer. Tout le monde va oublier. Il suffit qu'il y ait un bon résultat vendredi, tout le monde applaudira à la présence d'Emmanuel Macron et puis dira qu'il porte bonheur et que c'est formidable et qu'il peut aller en finale. Maintenant, là où il y a quand même quelque chose qui est assez étrange, c'est que il y avait deux aspects. Il y avait le premier aspect, c'est que discuter de ces mesures-là maintenant, ça paraissait effectivement un mauvais tempo. Je pense que politiquement, c'est un peu compliqué à comprendre. C'est avant l'été, c'est toujours un moment un peu spécial. Alors que la rentrée, effectivement, ça apparaît comme, en termes de média planning politique, si je puis dire, ça apparaît comme un meilleur moment. Alors, en l'occurrence, il le rattrape. Là, ce qui est effectivement incroyable, c'est qu'Agnès Buzyn fait le service d'avant-vente, on ne sait pas trop ce que c'est, et qu'elle tombe encore une fois dans une espèce de comédie qui n'est pas digne, on est bien d'accord.
Même Jean-Christophe, si à la rentrée, on peut se dire aussi qu'on a peut-être la tête à autre chose. C'est-à-dire, c'est la rentrée.
Oui, mais la rentrée, c'est toujours un moment où il y a cette espèce de friction sociale qui est... Et donc, arriver avec des bonnes mesures, puisqu'en l'occurrence, on peut estimer, on imagine que ce sont des bonnes mesures, on verra, parce que pour l'instant, c'est pas grand-chose. C'est un moment qui est quand même mieux choisi. Là, en l'occurrence, un, ils choisissent le mauvais moment, et en plus, ils tapent en touche pour des raisons qui sont certainement pas celles qu'on annonce, mais d'autres.
Emmanuel Piard.
Il faut dire aussi que les mesures qu'il envisageait d'annoncer sont aussi consternantes, hein, parce que lutter contre la pauvreté, si ça passe par servir un petit déjeuner dans certains départements le matin à l'école...
Oui, mais Emmanuel, c'est vrai qu'on sait qu'il y a des enfants qui n'ont
oui, bien sûr. Mais si on pense que c'est ça la solution au traitement de la pauvreté, d'une misère.
On connaît sa solution au traitement de la pauvreté, c'est de faire redémarrer l'économie et d'estimer qu'à partir du moment où l'économie démarre, tout le monde va en profiter.
Non, mais ça veut dire que pour compenser, pardon, les APL, la CSG et beaucoup d'autres choses, le petit déjeuner est un peu léger.
Vous touchez au fond, finalement. Vous touchez au fond, parce qu'en fait, je pense que la principale raison, c'est le fait que c'était pas clair, c'était pas précis, c'était pas du tout préparé, en fait. En réalité, et je pense qu'il y a eu non pas un tape on tape en touche parce qu'il y a le match de foot, mais parce qu'en fait on n'est pas prêt, donc il faut me reporter tout ça parce que c'est pas là.
Je disais bien un peu de ça aussi. Il y a une impréparation. Oui. Pourtant on voit, il y a des choses. Je dis un nouvel aide pour les gardes d'enfants, petit déjeuner gratuit, dispositif zéro chômeur. Voilà, on est quand même. Il y a des choses.
Il y a des choses, mais honnêtement pour le moment c'est pas extraordinaire et c'est le plan anti-pauvreté. J'ai pas l'impression qu'avec ces quelques mesures qui ont été annoncées, on sera en mesure de lutter contre la pauvreté. En fait là c'est l'annonce de l'annonce de l'annonce, c'est-à-dire qu'on a quasiment aucun élément sur le fond, à part ces quelques mesures qui sont très symboliques et qui, à mon sens, ne permettront pas véritablement d'aller à l'encontre du phénomène de pauvreté. Le contexte est intéressant. Je crois que là, il a atteint son niveau le plus bas dans les enquêtes d'opinion et dans les sondages. Lui, ainsi que son premier ministre, il est accusé, ça a été dit à l'instant, d'être à nouveau, ça y est, le président des riches avec la suppression de la CSG, l'augmentation de la CSG pour les retraités et la suppression de l'ISF. Ouais. Donc, effectivement, on est dans l'annonce de quelque chose de positif qui va être fait. On compte peut-être sur le fait que la France, et on le souhaite, remporte la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a toujours un effet oui ou non? Est-ce que la Coupe du Monde va faire en sorte qu'on oublie un petit peu les problèmes? J'en suis pas certain, mais là on est dans l'annonce de l'annonce et j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment de quoi débattre sur le fond.
Vous pensez qu'il a en tête, c'est-à-dire en fait la prérogative Chirac qui avait augmenté dans les sondages au moment où les Français avaient gagné la Coupe du Monde en 98. Hein. Allez, on va y revenir dans un instant. L'info à 20h10, Laurent Sénéchal.
Une nouvelle tension à Nantes. Au moins 2 voitures ont été brûlées ce soir dans le quartier du Breil. Hier, déjà, des violences ont éclaté après la mort d'un jeune homme tué par un CRS. Les policiers se sont rendus compte que son véhicule était inscrit dans leur fichier dans le cadre d'une enquête de trafic de drogue. Il a fait une marche arrière pour tenter de s'enfuir, d'après nos informations, et c'est à ce moment-là que le policier a tiré. Jonathan Daval revient sur ses aveux. Il affirme maintenant que c'est son beau-frère qui a tué Alexia Daval pendant une crise d'hystérie de la jeune femme, dit-il. Jonathan Daval a été mise en examen et écrouée fin janvier. Le corps de la jeune femme a été retrouvé carbonisé dans un bois non loin du domicile du couple. Le mari de Jeannie Longo, condamné en appel à 1 an de prison avec sursis pour trafic d'EPO. Patrice Ciprilli est aussi l'entraîneur de la championne de cyclisme. Il est condamné pour avoir acheté 33 boîtes de produits dopants à l'étranger entre 2008 et 2011. Le plan biodiversité présenté par le gouvernement, 90 mesures pour essayer d'éviter de bétonner notamment les espaces naturels et agricoles. L'équivalent de la surface d'un département disparaît tous les 9 ans à cause des routes, des lotissements ou des zones commerciales. Le mondial de football, pas de match aujourd'hui. Certains joueurs de l'équipe de France ont quand même tenu à un point presse avant le quart de finale face à l'Uruguay vendredi. Pour Blaise Matuidi, le milieu de terrain, ça sera plus difficile et plus fermé que face à l'Argentine.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernat.
Les informés de France Info. Mardi prochain, le gouvernement devait annoncer un plan anti-pauvreté. C'était important également pour Emmanuel Macron pour essayer d'effacer son étiquette de président des riches. Mais finalement, il sera repoussé à la rentrée par peur que le mondial ne vienne entacher finalement l'annonce, car les Français risqueraient, si on gagne vendredi, de jouer mardi prochain. Ce plan anti-pauvreté, c'est donc le virage social, Éric Métou, ce fameux dont on parle depuis un an, attendu, véritablement. Alors, le gouvernement dit, mais non, mais nous, on fait du social depuis un an.
Oui, je pense qu'il n'y aura pas de virage social. Enfin, ça, c'est un fantasme.
C'est un fantasme, oui.
Voilà, encore une fois, la politique de Macron, elle est claire. Il s'est fait élire là-dessus. On peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas lui reprocher. Il s'est fait élire sur le fait de dire qu'il va redémarrer l'économie, qu'il va libérer l'économie et qu'à partir de ce moment-là, tout le monde va en profiter. Donc, je porte pas de jugement, je constate. Et il continue comme ça. Donc, quand il prend des mesures aujourd'hui, alors effectivement, on ne va pas lutter contre la pauvreté en donnant des petits. Enfin, en tout cas, de manière très marginale, sûr, en donnant des petits déjeuners aux enfants pauvres. Mais il est dans son. Là aussi, il est dans sa logique, ce que fait Blanquer à l'éducation nationale, c'est-à-dire c'est du pragmatisme, des petites choses qui se voient, qui vont pas faire que la société et le monde va changer, mais dont lui estime que c'est important de le faire. Moi, rien ne me surprend là-dedans, et je pense pas qu'on va passer d'un seul coup de la jambe droite à la jambe gauche. Mmh. Il est sur la même jambe depuis le départ, et il bougera pas.
Jean-Christophe Gallien.
Et puis je crois qu'on écrit plus sur la page blanche de l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'on pouvait s'accorder sur l'idée quand on communique au début d'un mandat, on peut choisir l'histoire qu'on veut imprimer. En l'occurrence, il est président des riches, c'est pas venu tout seul. C'est-à-dire que des gens ont commenté, des gens ont subi, des gens ont bénéficié. Donc effectivement, c'est inscrit aujourd'hui dans le marbre.
Bah, c'est aussi des éléments de langage politique.
Donc changer et devenir président des pauvres demain, ou en tout cas avoir une jambe de gauche, ça sera compliqué pour lui malgré tous les efforts qu'il pourrait faire.
C'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi c'est pas arrivé aussi plus tôt? Finalement, il y avait rien à perdre à ce que ça arrive plus tôt.
Non, mais dans
l'image envoyée.
Non, bien sûr, je crois qu'il n'y avait rien à perdre. Là, à la rentrée, on a la réforme des retraites qui va être enclenchée. Donc, on a, à mon sens, un agenda qui va arriver. Et si vous me le permettez, je comprends votre scepticisme. Moi, j'ai tendance, malgré tout, à ne pas nécessairement tomber dans le fait que ce qui va être proposé, c'est forcément mauvais et ça va pas changer les choses.
Alors, par exemple. Ce que j'ai dit.
Non, bien sûr, mais on a tendance, c'est-à-dire que là, on parle bien d'une annonce, donc on n'a pas nécessairement
on
le
a
contenu.
Des petites choses.
Ouais, exact,
ça,
on a quelques mesures symboliques. Et par exemple, moi, j'ai noté le versement social unique qui fait que, par exemple, aujourd'hui, on a 30% des bénéficiaires de minima sociaux et d'aides de l'État qui ne sont pas au courant qu'ils peuvent en bénéficier et qui donc ne les demandent pas. Ça ne me semble pas inintéressant et totalement dénué de sens de faire en sorte que ces personnes-là bénéficient automatiquement d'un virement. Donc voilà, peut-être qu'effectivement, ça ne va pas révolutionner. Ayons l'espoir qu'effectivement, il y ait peut-être d'autres mesures. Mais voilà, c'est vrai que c'est très symbolique, mais certaines mesures peuvent effectivement tenter de nuancer la situation.
Il y a même
des critiques qui sont venues, qui étaient intéressantes aussi sur l'idée notamment de cette formation obligatoire, vous savez, après 16 ans, 16 et 18 ans, et même après. Donc on a des critiques qui viennent et qui sont intéressantes aussi à regarder de manière précise. C'est qu'on pourrait imaginer que c'est aussi une manière de faire baisser
le chômage
dans des moments électoraux qui vont être très importants.
Enfin, on peut aussi imaginer que de former les jeunes jusqu'à 18 ans, ça soit une mesure positive.
Il y avait la tentative de restaurer une sorte de service militaire ou de service civique, ce qui permet automatiquement d'éponger ou d'enlever aller 1 million de chômeurs très facilement des statistiques. Et effectivement, là, en prolongeant jusqu'à 18 ans la formation, ça ne mange pas de pain, ça faisait baisser les chiffres du chômage. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'on sorte de la pauvreté, parce que quand on est déscolarisé à 16 ans, on doit d'un seul coup suivre une formation qui ne mène à rien et qui n'est programmée par personne.
Oui, alors, une chose, Emmanuel Pirat, on parle là de nouveau d'une allocation unique qui réunit toutes les prestations sociales. Ouais. Ça, c'était dans la campagne d'Emmanuel Macron. On se souvient d'ailleurs, il y a quelque chose au niveau social qui a pu faire du mal aussi, c'était cette fameuse vidéo en disant ça coûte un pognon dingue. Est-ce que ce plan aussi, ça permet aussi dans un exercice de communication de faire effacer tout ça? Ça peut faire effacer
La communication est très mauvaise. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il y a l'utilisation d'un vocabulaire qui fait penser à Sarkozy. Hein. Moi, ça me rappelle vraiment, c'est un côté très bling-bling avec du casse-toi pauvre con. Presque, on est en train de tourner. On est parti d'une communication qui se voulait très loin de celle de François Hollande, détachée, supérieure, etc. Et puis, peu à peu, c'est une prise de parole quotidienne. Pourquoi pas? Ça ne me dérange pas. Hein. Sincèrement, que le chef de l'État choisisse de s'exprimer chaque jour au petit déjeuner. Peu importe. Ce qui est intéressant, c'est simplement la façon dont il s'exprime, le choix du vocabulaire. D'un côté, on fait la leçon à un gamin qui l'appelle Manu, et en même temps, on dit il y a la mafia, il y a le pognon, ce qui me paraît quand même un rapport au langage un peu particulier, voilà, deux poids, deux mesures. Et puis, c'est vrai qu'il y a une communication qui est compliquée, donc la tentative avec les petits déjeuners et l'aide sociale unique, elle est ratée, mais elle était là pour essayer de contrecarrer les prises de parole les plus lamentables de ces dernières semaines.
En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler donc au mois de septembre de ce plan anti-pauvreté. Allez, on va partir à Nantes, puisque à 20h30 hier, un contrôle routier dans un quartier sensible dégénère. Le conducteur refuse d'obtempérer aux forces de l'ordre, tente de s'enfuir et un des policiers tire et touche mortellement le conducteur. Sitôt la nouvelle de la mort du jeune homme annoncée, des violences
se sont déclarés dans trois quartiers, Breil, Malakoff et Darvalière, impliquant une centaine d'individus. Selon un bilan, il y a 8 bâtiments qui ont été visés par des incendies, dont un centre commercial, ainsi que de nombreux véhicules que les forces de l'ordre ont essuyé. Aussi des jets de projectiles, des cocktails Molotov. Ce soir, il y a toujours de la tension sur place. L'inspection générale de la police est saisie de l'affaire, alors que deux versions s'affrontent, celle des forces de l'ordre et des témoins. L'individu tué était connu des services de police, notamment pour des faits de vol, mais il est saisissant de voir à quel point l'embrasement est rapide et vif, toujours présent, et forcément, le lendemain matin, les habitants constatent, on va écouter une personne justement qui vit dans ces quartiers.
Je constate les dégâts ce matin, comme tout le monde, et je vois que ça fume encore, donc ça fait pas longtemps que ça a été éteint. Et tout a brûlé à l'intérieur, il reste plus rien, c'est même pas récupérable, même la porte a été défoncée, et ils sont rentrés pour tout exploser. C'est de la violence inutile, parce que là, c'est des personnes qui ont besoin de médecins, c'est des personnes qui ont besoin d'un lieu pour échanger avec d'autres, pour quitter leur solitude. Donc, je pense pas que c'est ça qui changera quoi que ce soit ou qui ramènera qui que ce soit.
Voilà, alors c'est vrai que, Jadzab, on sent quand même toujours des quartiers sous tension. Là, on l'a vu, ça s'embrase quand même en quelques minutes.
Mais oui, complètement. C'est-à-dire, premièrement, il y a eu ce jeune homme qui a été tué. Et malheureusement, dans les tragiques situations qui se reproduisent, malheureusement, de manière très fréquente, premièrement, on pense à la famille et on se dit que c'est quand même dommage qu'on en arrive là. Et malheureusement, nous, on ne peut pas vraiment y faire quelque chose puisqu'on a deux versions et c'est très compliqué de se positionner. En revanche, je crois que l'embrasement, lui, il dit vraiment quelque chose sur la situation, parce qu'on a en fait des quartiers qui sont sous tension, on a une misère qui est à la fois sociale et qui est économique, et je crois que si on a effectivement des forces de police qui elles aussi sont démunies, la situation dans ces quartiers-là montre qu'on a des gens, des jeunes beaucoup aussi, qui sont dans la misère, qui n'ont pas d'emploi, et il y a un besoin de réforme et de mise en mouvement de ces quartiers. Ça m'a fait penser au plan Borloo qui avait été proposé il y a un certain nombre de semaines et depuis abandonné par le gouvernement. Il y a un vrai besoin de mobilité sociale, de mobilité géographique, de ce fameux ascenseur social dont on parle. Donc là, malheureusement, on a sur la question de la police, parce qu'il y a un vrai sujet. Il y a quelques années, au moment des attentats, on prenait dans nos bras des policiers. Il y a malgré tout une forme de tension à la fois du côté des policiers, mais dans les quartiers. Et c'est vrai que voilà, j'espère que là-dessus, on peut avoir enfin un vrai projet de mutation sociale et économique pour ces quartiers-là.
Éric Métou, c'est toujours ce dialogue. Alors là, il ne s'est même pas fait le dialogue entre les policiers et certains habitants, mais on sent chaque année, il y a quand même une affaire qui revient et qui rappelle des souvenirs qu'il y a quand même toujours une tension autour de ces quartiers.
Chaque année à la même époque, c'est au début de l'été ou au milieu de l'été ou quand les gamins de ces quartiers sont dehors, pas scolarisés pour ceux qui, pas déscolarisés, donc sans avoir autre chose à faire que éventuellement d'aller brûler des bagnoles. Ce qui est tragique, c'est ce qu'on entendait dans le témoignage, c'est-à-dire qu'ils brûlent des voitures des gens qui vivent là, ils brûlent des lieux de rencontre et de convivialité, ils se tirent une balle dans le pied. Il y a quelque chose de complètement irrationnel dans ces réactions-là. Surtout en l'espèce dans cette affaire-là où quand même ce qu'on sait c'est que le type qui a été tué avait eu déjà des problèmes avec la police, qu'il n'était pas du quartier, il était de Garges-lès-Gonesse.
C'est ça. Ouais.
Donc c'est parti parce qu'il fallait que ça parte quoi. C'est-à-dire que le moindre prétexte ça aurait pu être un accident de voiture avec un scooter et une voiture de police, ça aurait fait la même chose. C'est un moment précis et effectivement il y a c'est un problème de guerre. Alors, on n'en sort pas, il fait chaud, on est en vacances et on brûle les bagnoles.
On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h20, Laurent Sénéchal.
Marlène Schiappa renonce à une mesure contestée de son projet de loi sur les violences sexuelles, le délit d'atteinte sexuelle avec pénétration qui était censé faciliter les condamnations en cas de relation entre un majeur et une mineure est supprimée du projet. Pour les opposants à cette mesure, c'est le viol qu'il faut retenir comme qualification. Le quartier du Breil à Nantes à nouveau secoué par des tensions. Ce soir, deux véhicules ont été incendiés. Hier, un CRS a tué un jeune homme de 22 ans. C'est ce qui a mis le feu aux poudres. D'après nos informations, le jeune homme n'avait pas sa ceinture ni ses papiers. Pendant un contrôle, les policiers se sont rendus compte que sa voiture était fichée dans le cadre d'un trafic de drogue. Le jeune homme a tenté de prendre la fuite. C'est alors que le CRS a tiré. Une enquête préliminaire ouverte après la découverte de glyphosate dans le miel d'un apiculteur de l'Aisne. Une plainte a été déposée par un syndicat de producteurs
contre le groupe Bayer, propriétaire de Monsanto qui fabrique du glyphosate. Les traces de ce puissant herbicide ont été trouvées par un grossiste dans plusieurs fûts de miel. Il fait encore très lourd ce soir, 31 départements sont en vigilance orange. Attention aux orages depuis les Deux-Sèvres jusqu'à l'Ain, depuis les Charentes jusqu'au Pays Basque et depuis l'Ariège jusqu'à la Haute-Loire. Lucas Pouille, déjà éliminé du tournoi de tennis de Wimbledon, le meilleur français s'est fait sortir par le 171e mondial tout à l'heure. Gaël Monfils, lui, s'est qualifié pour le troisième tour.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on parle de la situation à Nantes. Ce soir, il y a encore des échauffourées, notamment dans le quartier donc du Breil. Hier soir, donc c'est un contrôle routier qui a dégénéré avec un policier qui a tiré suite à la fuite de cette personne et donc qui l'a tué. Alors Emmanuel Pierre, il y a eu un rapport qui est assez intéressant il y a quelques semaines, c'est la police des polices qui a rendu public pour la première fois le nombre de personnes tuées ou blessées par les policiers. Et entre juillet 2017 et mai 2018, donc elle recense 14 morts et une centaine de blessés. Et c'est vrai qu'on la conclusion de ce rapport, c'est qu'il y a une véritable tension sur le terrain. Au total, il y a eu 394 coups de feu qui ont été tirés par les policiers en 2017. Ça veut dire véritablement qu'aujourd'hui, en plus du malaise policier, il y a un malaise, on le sait, bien sûr, dans ces villes-là. Donc, ça veut dire que ce sont ces malaises qui s'ajoutent en permanence.
Il y a surtout, des policiers qui se sentent pousser des ailes, parce qu'on leur a facilité aussi la possibilité de sortir leur arme. Et il y a une loi de février 2017, qui est une loi que je trouve un peu déplorable, mais qui néanmoins encadre un peu les choses, mais qui était plus en faveur des policiers armés, qui prévoit alors deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est celui dans lequel le policier doit faire deux sommations avant de tirer. C'est lorsque quelqu'un va éventuellement attenter à la vie d'un de ses collègues ou de quelqu'un d'autre. Il y a un autre cas de figure qui est celui dans lequel on pouvait se rapprocher là, c'est quand une voiture, un véhicule menace la vie de quelqu'un. Et là, sans sommation, on a le droit de tirer. Moi, le cas de figure d'hier soir, quand j'entends les versions, quelle que soit la version, celle de la police ou celle de l'autre côté, on n'avait pas le droit de tirer. Voilà. Et peu m'importe, qu'il s'agisse d'un délinquant, de quelqu'un qui a un mandat d'arrêt.
C'est pas aussi lui. Certain que ça, c'est pas vrai. Il y avait des gamins derrière. Si on écoute la police, il y avait des gamins derrière, il y a un policier qui était menacé.
J'ai écouté attentivement
la parole des policiers que celle des témoins qui sont certains témoins.
Tout le monde dit que la voiture reculait. Et c'est pas parce qu'on prend la fuite qu'on a le droit de tirer sur les gens. Voilà. Et donc, ça ramène à quelque chose d'intéressant. C'est le nombre de problèmes que nous avons et il n'y a pas une bavure policière par an. Il n'y a pas uniquement Adama Traoré ou l'affaire Théo. Il y a 14 morts par an dus à la police nationale. Et c'est vrai que moi, je peux comprendre. En même temps, il y a un climat de tension très important. On demande aux policiers de faire de la vigilance antiterroriste. On leur demande 100 000 choses en même temps. C'est vrai que c'est très compliqué. Mais ça ne justifie pas, dans une démocratie comme que la nôtre, un état de droit, qu'on puisse dégainer et tirer aussi facilement.
Alors, Jean-Christophe Gagnon.
Je crois qu'on est face à quelque chose qui est très grave, finalement. Et je ne parle pas du cas de figure de ce fait divers malheureux. On est face à ce qui était des fractures jusqu'à présent deviennent des ruptures et la distance est en train de se tendre. Et on va même plus loin, on peut aller plus loin. Bon, ce qu'on constate, c'est des séparatismes qui sont à l'œuvre. Des séparatismes qui trouvent des racines parfois économiques et sociales, on est bien d'accord, mais qui trouvent d'autres racines dans de la volonté d'affirmation identitaire dans certains cas, voire dans l'affirmation d'économies parallèles très fortement. Et ça se traduit dans des géographies. Aujourd'hui, dans ces géographies, et il y en a en Paris, par exemple, c'est pas la peine d'aller partir en banlieue, on parle toujours des quartiers. En l'occurrence, il y a une difficulté profonde de faire face à cette situation nouvelle qui est très affirmée et qui ne trouve pas sa naissance que dans l'économique et le social, encore une fois. Et face à ça, il y a une difficulté policière qui s'est affirmée. Il y a un rapport sénatorial
On en a parlé ici hier, mais c'est vrai que dans ce rapport, on voit quand même une misère policière qui est assez crasse, qui est prégnante. Ça a été une des interviews de policiers de terrain. On a l'impression de voir une police aussi laissée à elle-même.
Mais oui, mais c'est la raison pour laquelle je suis content de vous entendre dire effectivement que les policiers ne sont pas eux seuls les causes de la situation. Il y a une forme de misère sociale qui existe des deux côtés. Les policiers sont très sollicités. Ils l'ont été pendant l'état d'urgence. Il y a depuis février la mise en place par le ministre de l'Intérieur de la police de sécurité du quotidien qui n'a pas encore été totalement déployée. Le programme s'appelle les quartiers de la reconquête républicaine jusqu'à 2019. Il y a un vrai sujet là-dessus et l'idée de cette police de sécurité du quotidien est de rapprocher en fait les policiers, les personnes des quartiers, de façon à ce qu'il y ait un dialogue et un échange qui se fasse au quotidien. Mais je suis toujours très mal à l'aise face à cette situation. On vient de le voir à l'instant dans l'échange. C'est que malheureusement, on ne saura jamais exactement quelle est la... Quelle est la... Alors, pour le moment, la justice tranchera, l'IGPN le dira, mais c'est très compliqué de savoir de manière très précise ce qui s'est passé et comment, en fait, quelle est la bonne réaction. Et là-dessus, on a la question du récépissé sur les contrôles qui a été évoqué, la question des caméras embarquées aussi, qui sont potentiellement des solutions. Mais ça, ce sont des solutions conjoncturelles. Il y a un vrai mal, à mon avis, dans des deux côtés. Et je pense qu'il faut entendre à la fois la police comme
c'est
les
malaises qui se rajoutent.
Dans les fractures qui sont dites par rapport sénatorial, il y a une fracture très profonde, et celle-là encore plus grave, c'est celle entre la police et la justice. C'est-à-dire que finalement, les policiers accusent la justice de finalement brader leur travail, pour être simple. En l'occurrence, nous travaillons et nous faisons le maximum de ce qu'on peut faire, et finalement, le lendemain, ceux qu'on a mis à l'ombre, finalement, ils ressortent immédiatement. Donc, il y a une rupture extrêmement forte aujourd'hui et dense entre la police et la justice, qui, elle, doit être soignée, qui doit être, encore une fois, parce qu'il n'y aura pas de solution s'il n'y a pas de relation un peu plus coopérante entre les deux. Et il y a, encore une fois, cette affaire qui fait que la police, aujourd'hui, au-delà de ses moyens, se sent aussi, ils le disent, reniés ou en tout cas peu respectés par le politique et donc ceux qui choisissent.
Presque oubliés en effet. Allez, dans un instant, on parlera de la com' justement d'Emmanuel Macron, on parlera des ONG aussi aujourd'hui puisqu'il y a des tirs croisés sur ces ONG qui viennent en aide aux migrants. Voilà la suite du programme des informés de France Info dans quelques minutes.
C'est vu, Sévulco.
Pour les prix et pour les pros, c'est vu, Sévulco.
Pour profiter d'une promo, c'est vu, Sévulco.
En ce moment, chez Vulco, cumulez les avantages. Pour l'achat de pneus Dunlop ou Goodyear, jusqu'à 120€ remboursés et jusqu'à 40€ offerts en carte carburant. Avec Vulco, roulez au meilleur prix. Détails dans les points de vente et sur vulco.com. Offre soumise à condition.
De et entretien auto, c'est tout vu, c'est Vulco.
Suite à un sondage réalisé par le magazine Capital, Vulco a obtenu le label Meilleure enseigne 2018 dans la catégorie centre-auto garage pneumatique.
Mesdames, messieurs, nous atteignons le pays des pourcentages. Oh, quelle chance vous avez! Un énorme pourcentage de réduction vient vers nous! Oh, beau spécimen! C'est un moins 55%, une espèce rare.
Jusqu'au 16 juillet chez SFR, profitez des réductions exceptionnelles du shopping d'été, comme moins 55% sur le forfait Power 50 gigas à 10€ par mois pendant un an au lieu de 24€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. SFR, enjoy! Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client box sans mobile avec engagement 12 mois. Enjoy, profitez!
France Info Météo, avec CIC et vous, pour ne pas avoir à choisir entre l'humain et le digital. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Sébastien Léas.
Attention encore aux orages localement violents et porteurs de grêle jusqu'en cours de nuit. Une vigilance orange est toujours en cours. Demain matin, les orages toucheront encore le bassin parisien, le centre-val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est, avant de se concentrer demain après-midi sur le quart nord-est. Le temps sera nettement plus agréable sous un ciel dégagé sur les plages de la Méditerranée. Le soleil gagnant jusqu'au Languedoc l'après-midi. De belles éclaircies vont aussi revenir près de la Manche et entre les Flandres et le Cotentin. Partout ailleurs, les nuages seront prédominants. Quelques éclaircies assez franches arriveront à se dessiner demain après-midi, mais la journée sera aussi émaillée d'averses, notamment entre la Bretagne, les Pays de la Loire et les Pyrénées, ainsi que sur le Massif central et les Alpes, où des orages ne sont pas exclus. Avec ces conditions perturbées, l'ambiance se rafraîchit, les températures maximales seront comprises entre 21 et 27 degrés demain après-midi. Il fera plus chaud autour de la Méditerranée avec jusqu'à 32 degrés.
Au large comme sur la plage, les sauveteurs en mer sont toujours prêts à vous secourir. Soyez prêts à les soutenir.
Faites un don aux sauveteurs en mer sur jesoutiens.snsm.org.
France Info.
De poids, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Augustin Rivé, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. On apprenait hier soir que la réforme de l'hôpital prévue pour l'été serait finalement annoncée en septembre. Il semblerait que ce soit le cas d'autres textes majeurs du gouvernement. Ainsi, le plan pauvreté est lui aussi reporté à la rentrée. À l'origine, c'était programmé pour la semaine prochaine. Célia Kiré, il était pourtant désigné comme l'une des priorités de l'exécutif.
Officiellement, ce plan est reporté pour permettre une meilleure communication du message. C'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a demandé. L'Élysée ne veut pas que ce plan passe inaperçu entre les matchs de la Coupe du Monde de foot ou les vacances scolaires. Emmanuel Macron a d'ailleurs promis d'aller en Russie mardi si la France est en demi-finale. Il n'est donc pas certain de pouvoir être là pour une visite de terrain qui était pourtant prévue sur le RSA. Sauf que cette décision a surpris tout le monde, au ministère de la Santé comme parmi les députés proches de la majorité. D'abord parce qu'il n'est pas sûr que la France soit en demi-finale et parce que le président doit toujours annoncer quelques grandes lignes de ce plan lundi devant le Congrès à Versailles. Plusieurs mesures sont donc en attente. Un versement unique des prestations sociales, un droit à la crèche pour tous les enfants jusqu'à 3 ans ou encore des mesures pour le retour à l'emploi des chômeurs. De leur côté, les associations qui ont participé aux concertations aimeraient que le gouvernement mette mieux en cohérence ses paroles et ses actes. Elles pourront le dire directement demain à Emmanuel Macron. Le chef de l'État les invite en effet à déjeuner.
Célia Quiret, un texte en revanche prend forme, c'est la réforme de la Constitution avec une modification peut-être un peu plus que symbolique. Il n'y est plus fait état de sécurité sociale mais de protection sociale, ce qui vaut au gouvernement les critiques de syndicats. Un changement dangereux d'après la CFDT, tandis que pour Force Ouvrière, ce choix cache la constitutionnalisation de la mort de la Sécu. Un homme tué en fin d'après-midi par la chute d'un arbre en Corrèze, à Obja, en Dordogne, des toitures se sont envolées, des routes inondées. Violents orages ce soir sur tout le quart sud-ouest de la France. La préfecture de Dordogne a mis en place une cellule de crise. Elle demande de reporter tout déplacement. Plus de 100 000 foyers de ce département sont privés d'électricité. 31 départements exactement sont placés en vigilance orange Météo France. Tout le quart sud-ouest et la zone s'étend même jusqu'à l'Ain. À 20h33 sur France Info, on va retrouver maintenant Jean-Mathieu Pernin puisque c'est la suite des informés.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT, et eux, ils donnent l'hymne de la tête au son de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent l'avocat Emmanuel Pierrat, Éric Métou de l'Express, le communicant Jean-Christophe Gallien et Jade Zahab, président du Parlement des étudiants. Alors, autant vous le dire, nous sommes totalement fourvoyés dans notre analyse. Voilà, mea culpa. Nous pensions avoir un président qui, une fois la nuit tombée, se retirait dans sa bibliothèque tournant les pages de précieux ouvrages et arborant un doux sourire à la lecture de phrases délicates, et il n'en est rien. On le croyait disciple de Paul Ricoeur, il est en fait disciple d'Eddie Barclay. Et oui, pour le président de la République, la vie n'est qu'une longue soirée blanche, fête électro à l'Élysée pour le 21 juin, et hier, en visite au Nigeria, Emmanuel Macron s'accorde une petite visite dans la boîte de nuit de Fela Kuti, le shrine, et prononce cette phrase, ce qui se passe au shrine reste au shrine. Voilà. Donc Macron, organisateur d'enterrement de vie de garçon, on le sait maintenant, un épisode largement partagé qui appuie encore plus la stratégie de com' permanente du président de la République, et cette suractivité communicante ne plaît absolument pas, mais pas du tout, au député des Républicains des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti.
L'illusion se dissipe, l'anesthésie se dilue.
L'anesthésie, c'est le suffrage universel.
Oui, c'est un coup de com'. C'est la com' à outrance. C'est une élection présidentielle qui a été biaisée, qui a été tronquée, d'accord. Où le principal candidat de l'opposition a été éliminé pour deux raisons. C'est quand même la raison de l'élection de M. Macron.
Voilà, chacun sa raison. Donc Éric Ciotti ce matin avec Jean-Michel Apathy sur France Info. Alors forcément, Jean-Christophe Gagnon, je me tourne vers vous. On le voit beaucoup, Emmanuel Macron, en ce moment. Il intervient énormément, que ce soit sur les réseaux sociaux, des petites vidéos. On le voit. Est-ce que c'est efficace? Parce que pour l'instant, jusqu'à présent, les présidents faisaient beaucoup de communication quand ça allait mal.
Moi, je pense que c'est plutôt efficace, contrairement à ce qu'est le commentaire en ce moment, parce que je trouve qu'il occupe tous les espaces, tout ce qui est disponible, et avec des tonalités très différentes. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois avec lui chez le pape, on peut être en soirée avec lui au Nigeria. On a le backstage de l'Élysée où on l'entend dire que faut en dépenser trop quand même. J'allais presque le dire à sa manière, mais ça se fait pas ici.
Pognon de dingue.
On a tout ça. Donc ça devrait être normalement par accumuler cette espèce de caractéristique intéressante d'occuper tous les espaces. Alors il tue en partie la concurrence, c'est-à-dire que pour le coup ça c'est un effet quand même majeur. L'espace politique est quand même très largement lui. C'est-à-dire que pour le coup, faisant cela, effectivement, il a tendance aussi à se mettre tellement en avant que, entre cris et chuchotements, on peut imaginer qu'il va lasser les gens. C'est-à-dire que ça, c'est un petit peu vrai. Donc, il y a une lassitude. Encore une fois, cette lassitude, je crois qu'elle est vraiment liée non pas à sa communication, mais à la manière dont finalement il gouverne. Et pour certains d'entre eux, l'attente de résultats qui ne viennent pas. Et pour d'autres aussi, effectivement, les réformes, soit les réformes qui sont impliquées dans la. Donc, c'est plutôt l'acte politique qui fait le mécontentement, plutôt que la communication de cet acte politique ou de ce qui n'est pas un acte politique.
Emmanuel Pierre, et pourtant, on voit des sondages qui sont en baisse actuellement pour l'exécutif, hein, notamment Édouard Philippe plus qu'Emmanuel Macron, mais on voit quand même que ça a une portée limitée, cette communication à outrance.
Oui, elle a une portée limitée, mais aussi une communication aussi qui est souvent déplacée. Hein. Les blagues sur les Bretons et la mafia des Bretons au moment où on rend visite au pape, oui. Moi, j'ai aucune sympathie pour le pape. Hein,
ça et l'a pas
pour
fait rire du tout, pape. D'ailleurs. Hein,
mais non, c'était secondaire. Je ne sais pas qui s'est amusé et à qui ça peut plaire. Ça ne peut pas plaire aux Bretons, ça ne peut pas plaire à la mafia et ça ne peut pas plaire aux cathos. Voilà. Mais, non, mais pour faire simple, c'est-à-dire c'est la communication qui me paraît un peu
éraillée. Il le sait, ça, Jean-Christophe Gabin.
Oui, il ne sait pas je pense qu'il hésite. Il y a une position de supériorité qui s'est faite parce que le résultat de l'élection présidentielle et ce qui s'est passé après, l'effondrement global, encore une fois, de l'espace politique, a fait que c'est compliqué pour lui. Et il est entre eux, je casse les codes et je veux les casser, même chez le pape, c'est-à-dire finalement je finis par l'embrasser, ouais, donc je pète les codes, effectivement. Ouais, et en même temps, je reste très conventionnel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je fais la leçon à ce jeune homme qui lui veut casser les codes aussi, et je lui renvoie pas une image de finalement un président aussi jeune que je voudrais l'être, mais au contraire d'une forme de convention absolument incroyable. Alors, donc on se perd un peu là-dedans. Ce que j'appelle les tonalités, c'est intéressant. Maintenant, il faut que dans la durée, on est seulement au bout de... Voilà, ça fait très peu de temps qu'il est là, finalement.
Ah non.
Et donc, on a une forme... La lassitude peut venir, et c'est pour ça qu'il change en permanence et qu'il bouge en permanence ses lignes, tout en revenant toujours à cette idée, je pète les codes, et en même temps je suis très conventionnel.
Alors, Emmanuel Pierre.
Non mais il y avait un peu tout et n'importe quoi. Moi je trouve ça plutôt sympathique, hein, le côté boîte de nuit au Nigeria, etc. Sincèrement, j'ai rien contre. Ce qui est juste, ce qui est affligeant derrière, c'est qu'il y a deux choses dans ce qu'il dit. Il dit la musique africaine, etc., formidable, je suis tout à fait d'accord, il fait la Kuti et la famille Kuti sont des très grands musiciens, oui. Et en même temps il fait l'éloge de Nollywood. Nollywood, qu'est-ce que c'est? C'est la production cinématographique du Nigeria, c'est des nanas et des navets. Donc c'est, c'est certes le deuxième plus gros producteur de films au monde, c'est juste un producteur de série Z abominable. Ouais. Donc il y a d'autres cinémas africains peut-être à vanter que de faire des conneries comme ça au Nigeria. Voilà, ça me semblait effondrant.
Eric Métou, est-ce que ça vous a juste au départ amusé, étonné? Je sais que vous êtes amateur de musique, de voir donc Emmanuel Macron dans la boîte de nuit de Fela Kuti.
Moi j'ai trouvé ça formidable.
Pour ceux qui ne connaissent
pas Fela Kuti, il n'aurait pas été content.
Je précise pour ceux qui ne connaissent pas Fela Kuti. Fela Kuti est une véritable idole de l'afrobeat, voilà, qui a monté, qui d'ailleurs en plus même ça a été une idole politique. Aussi,
c'est une idole tout court au Nigeria et en Afrique plus largement. Donc moi je trouve que c'est assez formidable d'aller rendre hommage. C'est aussi un hommage, faut prendre comme ça, hein, un hommage à Fela Kuti, à ce que ça représente culturellement. Alors effectivement, Nollywood, je pense que c'est plus de la diplomatie que que de l'hommage culturel. Mais Fela, c'est un symbole fort. C'est un symbole fort en Afrique. Je trouve que... Alors, au-delà de la communication, on était sur la communication, mais au-delà de la communication en France, sur l'Afrique, ce qu'il a fait à Ouagadougou, il est en train de réconcilier un petit peu l'Afrique avec la France. Donc, respect là-dessus. Ouais. Après, sur le reste de la communication, quand il fait ça, c'est formidable. Quand il parle de pognon dingue, je trouve que c'est un petit peu moins formidable. Mais après, il s'en fout. Enfin, moi, j'ai une hypothèse.
On voit une accélération,
hypothèse.
En ce moment, on voit une accélération quand même. Hein,
il se fait plaisir. C'est-à-dire qu'il s'en fout. Il a une majorité formidable et surtout il a aucune opposition. C'est-à-dire il tue pas la concurrence. La concurrence, elle s'est tuée toute seule. Ouais. Wauquiez et Marine Le Pen sont aux abonnés absents. Mélenchon fait du Mélenchon. Hamon, on parle pas des voilà, on va éviter de traîner trop longtemps sur Hamon. Donc il est tout seul. Donc évidemment qu'il occupe tout l'espace.
Les autres sont pas là. Les autres sont pas là.
C'est ça.
Qui sont inaudibles.
C'est de ça. C'est de ça.
Sauf Agnès Buzyn.
Là on est dans la Ve République.
Allez, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h40, Laurent.
Un homme tué par la chute d'un arbre en Corrèze ce soir. La vigilance orange est en cours dans 31 départements, toute la moitié sud. La zone concernée par ces violents orages s'étend des Deux-Sèvres aux Pyrénées-Atlantiques à l'ouest et de l'Ariège à l'Ain à l'est. Les parents du jeune homme tué par un CRS à Nantes lancent un appel au calme relayé ce soir par le procureur. Au moins deux voitures ont été brûlées ce soir dans le quartier du Breil, théâtre de violence la nuit dernière. Après la mort de ce jeune homme, il a été arrêté par la police pour un contrôle routier mais n'avait pas ses papiers. Les policiers se sont rendus compte que son véhicule était fiché dans le cadre d'une enquête pour trafic de drogue. Le jeune homme a voulu prendre la fuite, un CRS lui a tiré dessus. Le gouvernement a dévoilé son plan biodiversité tout à l'heure. Il prévoit 90 mesures comme la fin des produits plastiques jetables ou la création d'un 11e parc naturel. En tout, le gouvernement promet 600 millions d'euros sur 4 ans. L'Italie a besoin de plus de travailleurs immigrés. C'est le directeur de la sécurité sociale italienne qui l'affirme. Il explique que la réforme des retraites prévue par le gouvernement va coûter trop cher en l'état. Il faudrait donc plus d'actifs pour financer le système. Le gouvernement italien est composé en grande partie de l'extrême droite qui veut empêcher à tout prix l'arrivée de sans-papiers en Italie. Condamnation confirmée en appel pour le mari de Gianni Longo. Patrice Ciprelli écope d'un an de prison avec sursis pour avoir importé de l'EPO, un produit dopant. Il est aussi l'entraîneur de la championne de cyclisme.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Le président de la République ne serait-il pas pris en ce moment d'un excès de communication? Ça n'arrête pas tous les jours, hein, que ce soit chez le pape, au Nigeria, dans une boîte de nuit, que ce soit sur Internet, que ce soit au Mont-Valérien, il est partout. Alors, Jadzab, est-ce que c'est vrai qu'on le voit beaucoup, Emmanuel Macron? On le disait à l'instant, plus que son gouvernement, ça donne pas l'impression d'un homme seul?
Non,
tout le temps, par cette communication autour de lui.
Honnêtement, j'ai pas du tout l'impression de voir un homme seul. C'est un homme qui vit avec son temps, avec les réseaux sociaux, avec. Il me rappelle beaucoup Barack Obama qui, quand il est arrivé, effectivement.
Dès qu'ils peuvent le copier, c'est un peu ça.
C'est-à-dire qu'il est très présent sur. Honnêtement, moi, ça me choque absolument pas de voir le président de la République au Nigeria dans une boîte de nuit en train de s'adresser à des jeunes parce que voilà, culturellement, c'est quelque chose qui se fait. Est-ce que tout est forcément calculé? Moi, j'ai sans doute la naïveté de croire que non, parce que. Je ne vois pas quel est le message de communication qui serait derrière d'aller parler de. Enfin, disons, il communique à l'égard des gens qui sont dans la boîte de nuit, mais je ne suis pas certain.
J'ai bien conscience
qu'il adresse un message aux gens qui sont ici en France.
Ça, je peux comprendre. Mais quand vous êtes chez le pape, il y a un moment, vous savez que vous êtes entouré par des centaines de caméras. Faire une blague sur la mafia bretonne à côté d'un pape qui se bat contre la mafia, vous savez que ça va être repris.
Non, mais attendez. Honnêtement, je ne pense absolument pas que c'est quelque chose qui était prévu, qui était calculé. C'est un mot. Alors ensuite, on peut critiquer l'humour du président de la République, qui peut parfois. Ressemblait à celui de Christophe Castaner, mais la question n'est pas de ça. Je n'ai absolument pas l'impression que les choses soient calculées. Ouais. Là, malheureusement, ça occulte l'objet de cette visite au Nigeria, qui est quand même un des seuls pays anglophones de la région. Il y a un véritable enjeu.
Vous n'avez jamais été visité par la présidence française.
Vous parliez tout à l'heure de Nollywood. C'est un des outils d'influence du Nigeria dans la région. Donc voilà, honnêtement, réduire tout à de la communication me semble peut-être un peu trop étroit sur les prises de parole.
Juste une chose, Jean-Christophe Gallien. Alors l'omniprésence de la com des présidents, c'est toujours une question, etc. Mais si on prend de l'autre côté, on a vu quelqu'un essayer d'être un président normal, il a fait beaucoup de com, finalement. Est-ce que finalement, ils sont piégés, non, par ça?
Ils sont piégés, et c'est la nécessité de la position présidentielle dans la Ve République, on en parlait tout à l'heure. Et aujourd'hui, il la digitalise, lui, il la rend encore plus médiatique, peut-être que ses prédécesseurs. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que dans l'affaire africaine, il y a effectivement une néo-diplomatie qui se fait faire un continent, et notamment la jeunesse d'un continent. 60% de la population au Nigeria a moins de 25 ans. Donc il parle à une génération qui ne connaît pas le colonialisme, qui s'y intéresse même pas, et qui part pour le coup, en termes notamment cette population de jeunesse anglophone africaine, est un vrai marché potentiel. Là, il y a un discours de nouvelle diplomatie qui est intéressant. Et en même temps, c'est le cas de le dire, il le fait avec Trace, excusez-moi de le citer, mais qui est un média qui fonctionne plutôt pas mal sur une population en France, qui est de la jeunesse, qui est pour certains des origines africaines, pour d'autres dans la Caraïbe. Et finalement, il y a toujours ces deux facettes. Quand on est chez le pape, on voit bien qu'il parle aussi d'une communauté en France qui est intéressante pour lui électoralement. Donc je crois qu'il y a à la fois une communication diplomatique qui est intéressante, et il y a une version à chaque fois,
qui est très hasard.
De campagne électorale. Moi, je n'y vois aucun hasard,
hasard,
sauf les fautes de ton sur l'affaire de la mafia.
Une chose, mais tout, ça dit quoi finalement de cet excès de com' comme ça du président après un an de pouvoir? Est-ce que ça dit quelque chose de lui? Est-ce qu'on le découvre petit à petit? Est-ce qu'on le connaît maintenant?
Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il se fait plaisir.
D'accord.
Alors après, il fait de la com', hein, c'est pas un amateur dans le domaine, mais je pense qu'il se fait plaisir parce qu'il y a peu de danger finalement. Encore une fois, il n'y a pas d'opposition aujourd'hui. Il est face à une opposition. Alors, il y en aura peut-être une
pour l'opinion publique. Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, que le 1er mai, il y a cet article dans Forbes sur l'exit tax?
Il passe en force. Aujourd'hui, il s'en moque de l'opinion publique. C'est-à-dire qu'il sait de toute façon qu'il prend des mesures impopulaires. Il sait qu'il aura. Il le savait dès le départ. Donc, il y va. De toute manière, même s'il avait pris d'autres mesures, il serait impopulaire. On est dans le dégagisme est un mal dont souffre le monde entier et l'Europe en particulier. Donc tant qu'à faire, autant qu'il fasse ce qu'il a dit qu'il allait faire, et il le fait. Après, il dérape de temps en temps. De se faire plaisir, ça n'a pas que des avantages.
Emmanuel Perrin, oui. Vous pensez non, sur non, se faire non, plaisir, c'est quelque chose véritable ou finalement c'est, ça peut être aussi calculé. Ça veut dire sur à s'adresser à chaque fois.
Il y a un mélange des deux. Là, il y a des calculs, etc., stratégiques, politiques évidents. Et puis après, il y a des loupés, il y a des gaffes. C'est assez humain. C'est moi, ça me semble pas le plus critiquable. Hein, sincèrement, l'omniprésence médiatique, le fait de parler tous les jours, c'est toujours mieux que d'avoir les tweets de Trump. Tout regarder.
Non, parce que lui-même avait dit qu'il serait au-dessus de la mêlée. Enfin, vous vous souvenez avant.
Ça, c'est pas grave. Qu'il change d'avis, qu'on admette.
Non, il n'avait pas dit ça. Il avait dit qu'il ne s'adresserait pas aux journalistes. Oui, et il continue à ne pas s'adresser aux journalistes.
Il y a une petite différence maintenant, je trouve, moins désintermédiaire qu'auparavant. C'est-à-dire qu'il continue à avoir cette relation directe avec des segments de marché. Moi, je le trouve extrêmement appliqué à l'idée de décomposer, déconstruire une société française et de parler à certains moments, à certains marchés. Ça, c'est vrai. Et après, il a tendance aujourd'hui quand même à fournir d'abord du contenu à des médias dont il sait très bien dont il a besoin. Et je pense qu'il y a un virage qui s'est fait, c'est qu'aujourd'hui, il est beaucoup moins à distance de cette intermédiation médiatique qu'il a voulu largement piétiner pendant un certain temps.
Vous dites Emmanuel Macron fournisseur de contenu.
Exactement. Il y a l'idée de Macron, marque, et aujourd'hui, vous savez, on parle beaucoup du contenu de marque, de plein de contintes, et en fait, il fournit son propre contenu, et il le fait de manière à chaque fois volontaire, soit sur la sphère privée ou politique.
En tout cas, on aura l'occasion de voir ça, donc sûrement cet été à Brégançon, en tout cas, voilà, ça sera formidable. Allez, la semaine dernière, l'Europe, vous savez, trouver un accord sur la crise migratoire, un accord apprécié par les pros et les anti-accueil, donc un vrai accord en fait. Depuis, les différents États ont trouvé un adversaire dont le nom s'écrit en trois lettres, ONG. La pression était déjà forte sur ces associations, mais là, elle devient vraiment critique, l'Italie. Donc on le sait, repousse les bateaux. Il y a Malte, par exemple, qui aujourd'hui a bloqué un avion de reconnaissance d'une organisation non gouvernementale allemande, accusée de créer un appel d'air. Elles sont désormais la cible de très nombreuses critiques. Alors, vous savez, l'extrême droite a un discours assez rodé sur la question, et depuis longtemps, vous allez l'entendre avec ce type d'argument, le député européen Rassemblement National, Nicolas Bay.
Souvent, les ONG récupèrent ces embarcations à proximité immédiate des côtes libyennes.
Non,
souvent,
ce n'est pas vrai.
Encore dans les eaux territoriales. Non. Ce qui pose d'ailleurs un vrai problème, parce que ça établit la complicité entre certaines ONG et les mafias et les passeurs.
Voilà, alors ça, c'est un discours déjà entendu, mais qui commence à s'étendre, même chez ceux dont on n'avait pas l'habitude. C'est le cas, par exemple, la semaine dernière, du président de la République En Marche, Richard Ferrand. C'était donc à l'Assemblée nationale. On l'écoute.
Le président de la République a eu raison d'attirer l'attention sur le fait que l'on peut parfois... On peut parfois être ce que Lénine appelait les idiots utiles, enfin. C'est-à-dire être les complices involontaires de gens qui font trafic d'êtres humains.
Voilà, Eric Metou, ONG, idiots utiles.
Ouais, il faut se rappeler ce que c'était les idiots utiles. Les idiots utiles, c'est des gens qui soutenaient le Parti communiste, qui pendant ce temps-là tuaient des millions de personnes en Union soviétique. Ouais. Je veux dire, la comparaison est honteuse. De toute façon, l'attaque contre les ONG est honteuse. C'est-à-dire que, en fait, on trouve, c'est toujours pareil, c'est le même système. On trouve un bouc émissaire parce qu'on fait pas le boulot. Les ONG, elles sont là pourquoi? Elles font pas un appel d'air, les ONG. Elles sauvent des gens que l'Europe. Les pays européens, pas l'Europe, les pays européens qui sont incapables de se mettre d'accord sur ce sujet, qui ont des politiques totalement incohérentes et de plus en plus populistes, y compris en France, sont incapables de sauver. Donc les ONG, elles font leur boulot. Mm. Quand les ONG, elles ont ramené les boat people dans les années 80, personne n'aurait eu l'indécence de prononcer des discours comme cela. Alors, de la part du Rassemblement National, que ça soit honteux et dégueulasse, c'est pas une surprise. De la part de La République En Marche, moi, ça me laisse les bras ballants.
Alors, c'est ça qui est intéressant, Emmanuel Pierre, finalement, pourquoi ce discours gagne aujourd'hui? On le voit, avant, c'était propre aux extrêmes. Là, on le voit que ça commence à s'étendre. On l'entend chez beaucoup de responsables politiques et pas forcément extrémistes.
Je ne sais pas pourquoi, en tout cas, c'est scandaleux. Je suis parfaitement d'accord avec Eric Metou. Le problème n'est pas les ONG. Le problème, c'est la fermeture des portes de l'Europe. Le problème, c'est l'absence d'aide à l'Afrique. C'est très bien d'aller danser en boîte de nuit si on avait un vrai programme d'investissement et d'aide aux pays africains, peut-être que le problème serait un tout petit peu moindre. Voilà. Le problème, c'est 14 000 morts en 3 ans dans la Méditerranée, ce qui est beaucoup. Et donc l'idée que les ONG seraient responsables de quoi que ce soit me semble, encore une fois, vraiment désastreux, scandaleux.
Alors, on va y revenir là-dessus dans un instant. L'info à 20h50, Laurin Sénéchal.
Jonathan Daval accuse maintenant son beau-frère du meurtre de sa femme Alexia Daval. Il affirme que Grégory Gay a étranglé sa sœur pendant une crise d'hystérie. Jonathan Daval a été mis en examen écroué fin janvier, 3 mois après la découverte du corps d'Alexia Daval calciné dans un bois non loin du domicile du couple. Le parquet ouvre une enquête après la découverte de glyphosate dans le miel d'un apiculteur de laine. Une plainte a été déposée contre le groupe Bayer, propriétaire de Monsanto, qui fabrique du glyphosate. Les traces de ce puissant herbicide ont été trouvées par un grossiste dans plusieurs fûts de miel. Le plan pauvreté ne devrait pas être dévoilé la semaine prochaine comme prévu initialement. Il est censé rassurer l'aile gauche de la majorité. Il devra attendre la rentrée d'après les informations de France Inter. C'est le beau parcours de l'équipe de France qui est pointé du doigt puisque le président Emmanuel Macron doit se rendre en Russie en cas de victoire des Bleus vendredi contre l'Uruguay. Justement, à deux jours de ce quart de finale de Coupe du Monde, un forfait de l'attaquant du PSG Edinson Cavani se précise puisque l'Uruguayen n'a pas participé tout à l'heure à l'entraînement. Il est blessé à la cuisse.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de ces ONG qui viennent en aide aux migrants en Méditerranée et qui sont désormais pointés du doigt par énormément de gouvernements en Europe. On l'entend, voilà, là il y a eu un parallèle qu'on a fait entre, c'est vrai, le discours du Rassemblement National, le discours tenu par Richard Ferrand qui imite celui d'ailleurs d'Emmanuel Macron sur pointer du doigt. En gros, ce qu'avait dit aussi Emmanuel Macron, c'est vous créez un appel d'air, c'est vous qui le créez cet appel d'air. Est-ce que aujourd'hui, d'un coup, c'est on cherche finalement des coupables, on cherche des gens faciles.
Ce qui a été dit, les différents propos qui étaient tenus soit par le Rassemblement National, soit Richard Ferrand, soit le président de la République, sont vraiment dommages. C'est assez inacceptable parce qu'aujourd'hui, les coupables, c'est l'Union européenne, c'est les politiques dans l'Union européenne qui n'ont pas réussi à trouver de solution. Si les ONG sont en Méditerranée, c'est parce que les États n'y sont pas. Et la crise politique à laquelle on assiste, et le Conseil européen de la semaine dernière a été la triste démonstration qu'on est incapable de trouver une solution. C'est l'Autriche qui, en plus, aujourd'hui, va prendre la tête du Conseil européen pendant 6 mois, donc avec un centre politique qui est plutôt à l'extrême droite.
Un centre de gravité, qui est plutôt
à l'extrême droite. Je trouve ça assez triste qu'on puisse dire aujourd'hui que ce sont les ONG qu'on pointe du doigt parce qu'elles sauvent des gens en mer. Alors ensuite, effectivement, il y a deux types de rôles. Les ONG ont un rôle conjoncturel, c'est-à-dire sur le moment d'aller sauver des gens qui sont dans la Méditerranée. Donc à mon sens, on devrait même pas se poser la question. Ces gens sont là, donc il faut aller les secourir parce qu'elles sont dans des conditions de vie qui sont totalement inacceptables. Ensuite, si effectivement, parfois, ces ONG, prennent un rôle politique, c'est-à-dire de revendication et de mise en avant d'un certain nombre d'idées, ça me semble plus problématique et il faut voir avec elles. C'est-à-dire qu'elles ont beaucoup d'ONG ont tendance aussi parfois quand elles vont chercher directement des personnes sur les côtes parce que parfois ça arrive, c'est pas le cas de l'Aquarius, mais parfois ça arrive. Là, elles ne sont pas dans le rôle et on ne peut pas opposer la légitimité politique qui vient de la démocratie, qu'on soit d'accord ou non d'ailleurs avec les gouvernements qui ont été élus en Autriche ou en Italie, à la légitimité des ONG qui là depuis que la crise existe font un travail qui n'est pas fait par les États. Mais cette opposition me semble, on ne peut pas les opposer. Ouais. On est censé travailler ensemble. Et le vide, il est politique aujourd'hui. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, il est assez mis en difficulté par le fait qu'il voit bien que peut-être qu'il ne trouvera pas de solution.
Éric Métou, et après
juste une remarque sur les conditions de vie des exilés, des réfugiés en Libye. Moi, je comprends que les ONG aillent s'en occuper, aillent chercher sur place quand même.
Ouais, bien sûr, mais dans ce cas-là, le problème est autre.
Il y a deux événements qui viennent de se passer. Il y a d'abord eu ce qui s'est passé en Italie, et ça a été une rupture d'une forme d'équilibre européen très importante. Et Matteo Salvini a largement piégé Emmanuel Macron et une partie d'autres pays européens, mais surtout Emmanuel Macron dans l'affaire de l'Aquarius. Et le deuxième point, ça vient de se dérouler, c'est le fait que Angela Merkel ait cédé pour maintenir sa coalition dans des conditions aujourd'hui, en tout cas à peu près acceptables pour elle. Ça modifie complètement l'équilibre interne de l'Union européenne sur ces questions, qui a déjà été en difficulté parce qu'on a bien vu qu'au Conseil, c'était difficile de trouver un accord. Mais la grande majorité des pays silencieux, qui ne disent rien, ne veulent pas changer le droit d'asile dans chacun de leurs pays respectifs, donc ce que ça représente, donc accueillir en fait en réalité, et deux, encore moins payer ce que l'Europe veut commencer à faire, c'est en gros une partie de la stabilisation de l'Afrique. La réalité, c'est que c'est pas simplement les Autrichiens, c'est pas simplement les Italiens, c'est pas simplement le bloc ou le groupe de Visegrad, c'est des pays beaucoup plus respectables en tout cas en apparence, et qui disent on n'en veut pas, mais qui le disent de manière silencieuse. Donc aujourd'hui, on est face à ce vrai défi qui met en péril une partie de l'équilibre européen aujourd'hui, et on peut pas dire pour autant que ça soit l'Union européenne qui est responsable de ce qui se passe en Méditerranée. C'est pas possible. C'est à la fois ce qui se passe en Afrique, le silence des élites africaines, le silence très assourdissant.
On a vu quand même des pays comme la Grèce et l'Italie dire à un moment, on ne peut pas faire tout seul, il faut que l'Union nous aide. Et tout le monde a dit, oui, débrouillez-vous.
Et c'est exactement ça. Mais c'est une difficulté parce qu'encore une fois, l'ensemble, beaucoup de pays européens qui ne disent rien sur ces questions, il y a un axe qui était l'axe Paris-Berlin-Bruxelles, Bruxelles étant l'ensemble des aides, la Commission européenne en particulier, qui était un peu, en tout cas, en capacité de faire valoir les choses. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Alors, parce que l'Allemagne vient de faire un peu faux bond et le reste les pays, on profite de l'argent.
Emmanuel Pirès, ça veut dire qu'aujourd'hui, on sent la fièvre un tout petit peu retomber, mais en Europe, ça va se reproduire finalement de nouveau cette crise à chaque accueil de bateau ou non-accueil de bateau, pensez
Il faut surtout se souvenir que le discours anti-ONG, il a démarré en Hongrie avec Orban. C'est quand même là qu'est parti le premier son de cloche contre George Soros.
Un discours antisémite,
très nettement. Ouais, donc et ensuite, c'est le discours de Salvini, c'est-à-dire l'extrême droite désormais au pouvoir en Italie. Et donc, il est inacceptable qu'Emmanuel Macron, La République En Marche et des gens qui sont à peu près normaux embrayent sur le même refrain. C'est juste ahurissant.
Et c'est-à-dire quoi? Ça suit l'opinion publique avec MeToo?
Bien sûr, ça fait que suivre. Après, il y a tout un discours sur la bien-pensance. Alors là, moi, je suis un bien-pensant. Pour tous les mal-pensants, je suis un bien-pensant.
C'est pour ça qu'on vous invite.
J'ai juste rappelé une chose. Moi, on a vu passer l'info tout à l'heure là sur pendant le flash.
Tout à fait.
La sécurité sociale italienne dit que l'Italie a besoin des migrants. Il y a une autre info qui est passée la semaine dernière. Le ministère de la Santé américain, qui n'est pas un repère de gauchiste, a sorti une étude disant que sur 10 ans, je crois, les migrants mexicains aux États-Unis ont rapporté 67 milliards de dollars de plus que ce qu'ils ont coûté aux États-Unis. C'est ça le vrai discours, c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que le pragmatisme, il est là. On a besoin des migrants, on ne les arrêtera pas. On n'arrêtera pas des gens qui sont dans une telle misère en mettant des barrières et alors que nous, on est le miroir aux alouettes. Donc, réfléchissons plutôt de cette manière-là, c'est-à-dire occupons-nous des problèmes, mais faisons-le au niveau européen, mettons les pays ensemble. Le problème, c'est qu'en Europe aujourd'hui, malheureusement, la tendance, elle est populiste.
Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup Jean-Christophe Gallien d'être passé ce soir. Merci Emmanuel Pierra, Jadzab également. Merci. Merci. La une de l'Express, Eric Métou, cette semaine.
La droite la plus belle du monde, celle des Républicains en France, avec, je parlais de Laurent Wauquiez qui avait disparu tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelqu'un pour la sauver?
Très bien, retrouvez d'Express. Il est temps pour nous de retrouver Jean-François Aquili. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Pour Tout est politique au programme ce soir.
Allez, je vous la fais courte, nous parlons de Marlène Schiappa, des violences survenues à Nantes, du plan diversité et d'une enquête IFOP Jean Jaurès sur les Français et la droite, justement, avec Laetitia Avia de La République En Marche, Adrien Quatennens de La France Insoumise, Jordan Bardella du Rassemblement National et Frédéric Dabi de l'IFOP.
Allez, Tout est politique, c'est dans quelques minutes sur France Info.